matin, j'avais envie de partager avec vous un thème, qui est le thème de cet après-midi. Alors, je suis juste en train de regarder, il ne faudrait pas que je dise de bêtises. Donc, cet après-midi, on va voir un film sur l'accueil du migrant, l'accueil du réfugié. Et c'est vrai que je me suis aperçu avec cette actualité, avec l'accueil dans l'appartement au-dessus de ces réfugiés, de ces migrants, nos accueils de nos amis, que j'avais vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Et je pense que malheureusement, nous sommes que des hommes, des femmes de chair, et parfois, les choses ne sont pas dans nos cœurs comme le Seigneur pourrait nous l'indiquer dans sa loi. Alors aujourd'hui, j'ai voulu prendre ce thème, accueillir l'étranger. J'ai réfléchi à cela et puis j'ai ouvert plusieurs livres parce que le Seigneur, je suis d'accord, il parle avec son esprit, par son esprit, mais des fois il a besoin aussi qu'on travaille, qu'on fasse des recherches. Et quand dans le cœur les choses ne sont pas claires, des fois il y a des choses qui peuvent vous frapper dans vos lectures. Et j'ai lu un livre des éditions Mennonites qui s'appelle Martin Luther King, le rêve de la communauté bien-aimée. Et je voudrais donc commencer ce message ce matin par un extrait de la déclaration de Martin Luther King Jr., pasteur, lors de son discours du 28 août 1963 à Washington. C'est un extrait. Martin Luther King dit « Je fais le rêve que les hommes un jour se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour être frères. Je fais encore le rêve ce matin qu'un jour, chaque étranger de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier, soit jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. » J'ai été interpellé dans ce livre par le chapitre qui traite de la mission de l'Église. Cette mission, pour résumer, dit que l'Église doit participer activement à la lutte pour la paix et la justice économique et raciale. L'Église doit être le guide et la conscience de l'État. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement, je me pose beaucoup de questions sur l'accueil de l'étranger. Et donc, j'ai souhaité ce matin partager ces quelques réflexions avec vous. Nous lirons tout d'abord quelques passages de la parole pour essayer d'éclairer mes propos. Je commencerai par un texte dans Lévitique 19, versets 33 et 34. Je commencerai même au début du chapitre 19 pour bien comprendre le contexte. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et plus loin au verset 33, il est dit, donc on a bien compris le contexte, c'est l'Éternel qui parle à Moïse et qui dit « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et encore en Lévitique 25, au verset 35, c'est Dieu qui parle et qui dit « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. » Et encore dans l'Ancien Testament, Deutéronome 10, versets 15 à 19, il est dit « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez point votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acceptation des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui adonne la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger quand vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est fort, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Alors j'ai essayé de regarder aussi dans le Nouveau Testament et j'ai trouvé en Matthieu 25 les versets 34 à 46. Et donc je vais les lire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondraient aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Eh oui, Seigneur, vraiment, ce passage me frappe. C'est vrai que tu nous as promis d'inscrire dans nos cœurs ta loi. Et Seigneur, cette partie de la loi, je ne l'ai pas dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Le phénomène des migrations, le phénomène de l'étranger agite bien des passions actuellement dans notre monde. Et en France, je dois avouer que, peut-être dans d'autres pays aussi, s'ajoute à cela l'insécurité grandissante, souvent illustrée dans les médias par le terrorisme, par des exactions commises par des jeunes de banlieue. Et malheureusement, toutes ces images nous frappent et nous touchent et sont inscrites dans nos esprits. Alors en premier lieu, je vais essayer d'expliquer qui est l'étranger pour moi. L'étranger, c'est celui qui est autre, pour quelque raison que ce soit, religion, culture, opinion. C'est celui qui est ressenti comme différent, inconnu, je dirais même voire étrange et menaçant. Néanmoins, il faut le distinguer de l'ennemi, même si dans certains contextes, les deux vocables que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament peuvent se rejoindre. C'est vrai que ce qui est bizarre dans l'Ancien Testament, c'est qu'on disait au peuple de ne pas se mélanger avec les étrangers. Et c'était la guerre, justement. C'est aussi celui qui se réfugie dans une communauté qui n'est pas la sienne, et éventuellement y réside et travaille. Comme le dit ce texte de Matthieu 25, face à l'étranger, le chrétien peut difficilement rester neutre. De fait, et sans prétention, l'Église peut rendre grâce à Dieu de l'esprit d'accueil, de la générosité et du dévouement de beaucoup de ses membres. Mais on doit aussi reconnaître humblement et confesser, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, qu'on n'est pas parfaitement éveillé et que tous ses membres n'ont pas forcément la même implication exigeante du message de Christ. Comme tout homme, le chrétien n'est pas à l'abri de racisme de toutes sortes, d'autant plus dangereux qu'ils sont souvent marqués, masqués, niés. On dit souvent, et pourtant, je ne suis pas raciste, mais... Vous voyez ce que je veux dire derrière. Bon, parfois, assorti de justifications, ou résultant de positions politiques incomplètement analysées. Et comme j'ai dit, je fais malheureusement partie de cette catégorie. Les différences de fait peuvent créer des difficultés relationnelles ou autres. Elles ne sont pas faciles à surmonter. Ces différences ne peuvent pas être gommées, ni être élevées au rang de référence autoritaire. Mais la foi au-dessus des cultures peut rendre ces différences aussi enrichissantes que possible pour tous, qu'elles portent en elles les ressources de la diversité. Toutefois, pour éviter tout malentendu, je tiens à faire la différence, et dans ce que j'ai lu, la différence est faite aussi entre l'étranger qui souhaite s'intégrer et celui qui cherche à imposer sa façon de vivre, pouvant aller des fois jusqu'à l'affrontement. Je tiens à préciser aussi que respect et acceptation de la personne dans sa différence même ne veut pas dire approbation de n'importe quelle conduite. Le devoir de respect et d'accueil n'autorise pas chez celui qui en bénéficie n'importe quel comportement, fût-il revendiqué comme un droit, en particulier s'il est nuisible à soi-même, aux autres et à la société. L'égoïsme n'est pas l'apanage de telle ou telle catégorie, mais de l'être humain en général. J'aime bien cette image du duo accueillant-accueilli. Le duo accueillant-accueilli se fonde sur la nécessaire complémentarité et la réciprocité des devoirs et des droits. Et ça, il faudrait qu'on le dise souvent. Quand on parle de racisme ou qu'on parle de rejet de l'autre, il y a rejet de l'autre, mais il y a aussi de l'autre qui doit accepter d'avoir des droits et des devoirs quand il arrive chez vous. Les droits de l'accueilli n'impliquent pas les devoirs aimants de l'accueillant. Ces droits entraînent un retour des devoirs. En conséquence, l'accueilli acceptera de respecter la culture et les lois. Par exemple, de payer les impôts, de respecter la police, d'être respectueux vis-à-vis des autres. Il se fera une obligation de s'adapter à la culture du pays d'accueil et de contribuer à un bon fonctionnement. Et s'il ne reconnaît pas dans les pratiques culturelles ou cultuelles de la communauté religieuse qui l'accueille, par exemple, l'attitude corporelle adoptée pour la prière, il pourra exprimer ses points de vue, proposer comme une source de réflexion et d'enrichissement, et non pas les imposer comme la seule référence acceptable. Et j'ai bien apprécié cette journée interreligieuse, parce qu'on s'est tous acceptés les uns les autres, on a laissé les personnes s'exprimer, exprimer leur prière au moment du repas, ou après, il y a eu différentes prières, et ça, on l'a accepté. Et c'est ça que je vois, je dirais, qui me touche particulièrement. En deuxième lieu, donc, j'ai un peu essayé de vous expliquer, pour moi, ce qu'était l'étranger. En deuxième lieu, j'essaierai de partager ce qui est la responsabilité du chrétien et comment l'accueil doit être cultivé dans nos églises. L'accueil exprime la rencontre de l'autre. C'est une dimension importante de l'existence, puisque l'humain est un être de communication. Et surtout parce que le chrétien, parce qu'elle est une mise en application concrète du message évangélique. On l'a vu tout à l'heure dans les textes que j'ai lus. Mais on peut aussi voir ça dans Romains 15, verset 7, il est dit « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » L'accueil fut un des éléments clés de l'édification et de la dynamique de l'Église primitive, gage d'une qualité de vie et de témoignage. Il est aussi reconnaissance que l'autre, quel qu'il soit, est enfant de Dieu. C'est un être unique, accueilli par Dieu, appelé comme chacun à une réconciliation complète, non seulement avec Dieu ou avec lui-même, mais avec aussi son prochain. L'accueil devient alors une force vive et intérieure, source de créativité et d'ouverture. Il se manifeste par l'humilité, la disponibilité et la reconnaissance de l'autre et de ses besoins. Cette mission demande écoute, engagement, hospitalité, compassion, absence d'arrière-pensée, non-jugement de la personne, capacité potentielle à changer son regard sur l'autre et à vouloir agir ensemble. L'accueil véritable invite à passer d'une vérité théorique à une vérité pratique vécue et construite jour après jour. Accueillir, c'est communiquer, rétablir la confiance, construire des passerelles. C'est pour le croyant un acte de foi rendu agissant par l'amour. L'amour agapé dans l'accueil n'est pas une approche d'amabilité envers un inconnu, mais quelque chose de plus profond. Ce que un être humain accomplit de lui-même, mais ce que Dieu effectue en lui. Dieu, il a mis, et je crois que dans la version que tu as lue tout à l'heure, c'était l'amour dans le cœur des hommes, alors que moi, dans ma Bible, c'est la loi. Mais j'aime bien la version de l'amour dans le cœur. Démarche qui, sans briser la spontanéité, demande à être apprise, perfectionnée et appliquée avec persévérance. Plus qu'une méthode, c'est un comportement, une manière d'être dans des circonstances parfois difficiles. L'ambiance générale d'une société de consommation et de profit porte peu au ministère de l'accueil. C'est avant tout une démarche personnelle, difficile à dicter, mais qui peut trouver dans l'action de groupe plus de motivation, d'idées et de moyens concrets. Et je voudrais remercier à cette occasion notre Église pour l'accueil qui font aux migrants, pour avoir mis à disposition cet appartement pour vous, les engagements des uns des autres. Merci Christian, les Christians, merci à tous. Merci pour le film qu'on va voir cet après-midi. Je me réjouis de voir ce film. La notion d'accueil de l'étranger, justement, ne peut pas me laisser indifférent. Ne peut pas nous laisser indifférents. En effet, nous trouvons dans les Écritures de nombreux versets parlant des étrangers, dont les versets que j'ai lus tout à l'heure. Si un étranger vient séjourner avec vous, vous ne le priverez point. Si ton frère devient pauvre, tu le soutiendras. Tu feras de même pour l'étranger qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Les chrétiens reconnaissent au moins théoriquement qu'ils sont eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre, comme ce fut le cas dans ce que j'ai lu tout à l'heure dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Dieu aimait leur rappeler qu'ils avaient été étrangers. Mais ces textes bibliques ne restent-ils pas lettre morte, tant les chrétiens se sentent partagés entre leur fort intérieur et concrètement très démunis. Personnellement, je sais qu'en groupe, on peut se soutenir, mais personnellement, moi je me sens complètement démuni par rapport à ça. Entre les temps bibliques et l'époque actuelle, spécialement ces dernières années, où les questions de migration ont pris une ampleur considérable, tant pour des raisons économiques que politiques ou écologiques, les conditions de vie ont tellement changé qu'il faut un réel effort d'imagination, une grande générosité de cœur, une vraie fidélité à l'esprit de la révélation, le regard de foi pour accepter de reprendre ses paroles à son compte et tenter de les vivre. Alors ce matin, je vous partage tout ça. J'ai lu plusieurs passages et je demande au Seigneur vraiment de toucher mon cœur par rapport à cela. Parce que là, pour l'instant, ça reste au niveau intellectuel. Le chrétien, un citoyen à part entière, ne peut pas oublier l'ensemble culturel, économique et politique dont il fait partie. Cela doit l'amener d'une part à un certain réalisme et d'autre part à envisager toutes les formes d'engagement possibles en vue de faire bouger le monde où il vit et agit. Je ne dis pas de mettre vos gilets jaunes, mais ensemble nous pouvons agir pour l'accueil. Le combat associatif dans des structures d'inspiration religieuse ou non, car je dois reconnaître qu'effectivement il y a beaucoup de non-croyants qui militent dans ces domaines, et on l'a vu avec ce collectif, avec une immense générosité, dans l'action sociale et politique, nationale ou internationale, pour contribuer au changement des mentalités, des comportements et des lois, sont des exemples parmi tant d'autres. Merci pour vos exemples. Le chrétien a un rôle civique, politique, écologique à jouer comme citoyen de son pays et habitant de la terre. À ce point de vue aussi, il est tiraillé entre deux attitudes opposées. D'un côté, il sait qu'il ne peut revendiquer comme propriété égoïste et exclusive la planète qui le nourrit. Cela implique tempérance et partage, respect des ressources en eau et en énergie entre autres. L'enracinement du chrétien ne se fait pas d'abord dans une terre, une culture, une société ou une ethnie, avec ses façons de voir et de penser, quelles que soient les valeurs de celle-ci. Il devrait se fonder prioritairement sur le Christ. D'un autre côté, chaque citoyen doit comprendre aussi qu'un pays ne peut pas tout faire en termes d'accueil. Et c'est là la limite. N'est-ce pas, Elisabeth ? Pas forcément évident. Un État a le droit et certainement aussi le devoir d'assurer les conditions sociales permettant le bien-être de tous. Devant les flux migratoires qui pourraient devenir énormes dans les décennies à venir, une réflexion et des actions urgentes et importantes de tous, citoyens et politiques, s'imposent. Non seulement pour tenter de réguler ce flux avec justice et humanité, mais aussi et surtout pour travailler en amont avec plus d'équité planétaire. Cette tâche, au niveau des causes, est urgente et démesurée. Démarche qui se voudra modeste dans la mesure où la complexité du monde rend souvent beaucoup de difficultés insolubles. Mais néanmoins résolument engagée et non fataliste. Cela implique auprès des populations pauvres plusieurs choses. Un engagement et une lutte contre toutes les formes d'injustice et d'exploitation. Des aides sans paternalisme pour un meilleur accès à l'éducation, aux soins, à une plus grande autonomie décisionnelle et économique. Cet objectif souligne que si une aide ponctuelle et immédiate est souvent indispensable, il est tout aussi nécessaire de ne pas rendre dépendant et de penser, de vouloir dès le départ, l'aide comme un pont pédagogique vers l'autonomie. Et troisième chose, un partage des richesses et des savoir-faire, particulièrement ceux qui visent le bien-être de base et sont respectueux de l'environnement. Le chrétien est même averti que cette relation au prochain est l'un des critères de l'authenticité de son salut. Il est dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?» Le roi leur répondra « Je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans Matthieu 25. Le christianisme est d'abord une vie d'amour, vécue au quotidien, sans discrimination a priori. Une vie où nous sommes responsables de respecter, d'aider, de ne pas fuir, de ne pas juger, ni même jauger trop vite toute personne que nous côtoyons. Comme cela a été lu dans les passages bibliques, le mot d'ordre de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est d'accueillir l'étranger. Alors, Jean-Louis, frères et sœurs, face à nos difficultés dans ce domaine, je vous prie de bien vouloir m'aider aussi de par vos actions, de par vos attitudes, à participer à l'acceptation et à l'accueil des étrangers. Merci pour cela. Amen.